très heureux d'être avec vous autres un matin, de pouvoir porter la parole de Dieu, de pouvoir ouvrir la Bible avec vous. Je ne sais pas si je devrais bouger ça vraiment. Ça coule. Voilà. Je reviens de vacances. Je suis tout frais de retour de vacances. Aujourd'hui, je m'en viens prêcher la parole ici à notre belle église de l'Espoir. 2 semaines de vacances. Ça fait du bien, hein? Et là, il n'y en a pas gros qui ont pris leurs vacances à date. 2 semaines de vacances. La première semaine, c'était extraordinaire. On est sorti avec mon épouse. On est allé passer 2 jours dans un spa. On est revenu à la maison. On s'est préparé pour partir toute la famille, aller visiter notre belle famille pour une fin de semaine au chalet avec, pour célébrer le 25e anniversaire de mes beaux-parents. Puis là-bas, j'ai pensé que j'étais encore un petit jeune. Fait que j'ai fait des folies en arrière d'un bateau. Puis je me suis probablement fêlé des côtes. Fait que je suis revenu à la maison avec des douleurs. Puis quand on est arrivé à la maison, après, du mardi au samedi, on a eu la gastro chez nous. Fait que, on a 4 enfants, un après l'autre. Fait que ça a été des vacances tellement relaxantes. Mais je suis de retour en force avec vous autres ce matin. Et comme Michel l'a dit, ça fait 15 ans que je suis marié à Marie-Michel. On a célébré, en fait, notre 15e anniversaire pendant nos vacances, dans les dernières semaines. Et c'est vrai, on a l'habitude de dire ça, hein? Félicitations, surtout, c'était facile pour moi, mais pas pour elle. Et si on est honnête avec nous autres, c'est pas vrai. C'est pas vrai, hein? Non? Il y en a-tu qui sont mariés ici, qui sont mariés depuis plusieurs années, puis qui disent, « Hey, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans que je suis marié, ça fait 25 ans que je suis marié, puis ça a tellement été facile ces années-là. » Puis on dit ça des fois en pensant être cute, mais ça enlève en quelque part toute la beauté au mariage, parce que ce qui fait que c'est beau, c'est justement parce que c'est extrêmement difficile. Là, ma femme écoute un matin, puis elle dit, « Hey, exagère pas, Eric, là. » Peut-être pas tout le temps extrêmement difficile, mais c'est pas facile. Mais c'est ça qui en fait sa beauté. C'est ça qui fait que c'est beau, parce que tu persévères malgré que c'est difficile. Quand je regarde à mon propre couple, quand je regarde à mon épouse puis à mon caractère à moi, je me dis, les 15 dernières années ont certainement pas été faciles, mais une des choses qui est vraie, c'est que c'est certainement pas parce que je suis un homme extraordinaire qu'on est encore ensemble après 15 ans. Et honnêtement, je suis pas ici pour faire de la fausse humilité puis dire je suis un homme horrible puis ma femme est extraordinaire de m'endurer. C'est pas de la fausse humilité. C'est une réalité dans ma vie. Je sais pas s'il y a des gens ici qui ont déjà gagné des prix ou que vous avez déjà gagné des concours, des choses comme ça, ou déjà été, qu'on a déjà souligné vos exploits remarquables dans la vie. Moi, je vais vous en raconter 3 ce matin en ce qui me concerne. Ok? Parce que je commence le message en vous disant que je suis un homme faible. C'est vrai dans mon mariage, c'est vrai dans ma vie de tous les jours. Moi, j'ai gagné 3 prix dans ma vie. Puis ça n'a jamais été à cause de mes grands talents. J'ai jamais rien remporté dans ma vie parce que j'étais bon dans quelque chose. Je me rappelle être tout petit, vers 8-9 ans, puis je faisais du taekwondo. Puis à la fin de l'année, ils ont fait une grande cérémonie pour remettre des prix, remettre des médailles, en fait. Il y avait une grosse célébration, on a eu un repas et tout ça. Puis là, les prix passaient un après l'autre. Puis il y avait des gens qui recevaient des prix pour la meilleure détermination, qui a performé mieux que toutes les autres. Il y en avait un autre qui a inventé les meilleurs kata et tout ça. Puis à la toute fin, il y a eu une médaille qui a été donnée, qu'on m'a appelée. Puis je disais, enfin, je suis vainqueur, j'ai une médaille. Puis c'était la médaille de la persévérance. On m'a donné une médaille pour dire, bravo mon gars, t'as pas lâché. T'es pas super bon, mais t'as pas lâché. Je me rappelle après ça, à l'école primaire, la même chose à la fin de l'année, à un moment donné, on donnait des certificats aux élèves, puis on disait, voici le certificat pour les meilleures notes de l'année, le certificat pour le meilleur comportement, que j'ai pas reçu non plus. Puis à un moment donné, à la toute fin, ils donnaient des petits cadeaux avec ça, ils donnaient des ballons de basketball, des choses comme ça. À la toute fin, j'ai reçu un prix aussi. J'ai été chanceux. J'ai gagné un sac banane. Pourquoi? Pour avoir été présent au tirage. C'est un prix de présence. Après, je suis arrivé à l'école biblique plusieurs années plus tard. Puis là, à l'école biblique, j'étais assis pendant la cérémonie de remise des diplômes, puis il y avait aussi des remises de bourses. Je ne sais pas si vous avez déjà participé à ça. Mais là, j'étais assis dans mon banc, puis je me dis, bon, il y a plusieurs organismes externes à l'école biblique qui donnent des bourses à des élèves. Puis là, tu vois sur l'écran, c'est écrit en gros derrière toi. Là, c'est écrit « Bourse pour l'élève avec la meilleure amélioration de l'année ». Bourse pour l'élève avec, encore une fois, les meilleurs résultats. Bourse pour l'élève qui a exercé un meilleur leadership dans sa classe. Puis à la toute fin, j'ai encore gagné un prix. Je gagne souvent des prix, je suis vraiment béni. Puis c'était écrit sur l'écran, on m'a dit, puis là, tu sais, ils faisaient venir les gens sur le stage, ramasser leur prix. Moi, ils m'ont dit, tu peux rester à ta place, venir le chercher après la cérémonie, on va te donner une Bible. Tu donnes une Bible à un étudiant de l'école biblique. Puis sur l'écran, c'était écrit Bible pour un étudiant de l'école biblique. Encore une fois, ils ont dit, on va donner un prix à quelqu'un, choisissez un élève, puis on va y donner. Écoute, je suis super reconnaissant pour tous ces petits moments-là que j'ai trouvé agréable dans ma vie, mais en réalité, si on regarde dans notre vie, le message que je veux prêcher aujourd'hui, puis qui vient d'Ésaïe 33 dans la série Réveil, c'est un message pour ceux qui ne sont pas bons. C'est un message pour ceux qui sont faibles. C'est un message pour ceux qui échouent dans la vie. Puis c'est quelque chose qui est difficile à dire des fois. Ou peut-être si vous évaluez votre vie en ce moment, vous ne dites pas « moi, je suis une personne qui échoue ». Moi, je suis une personne qui est faible, ou moi, je suis une personne qui est pas bon, qui est pas bonne, qui est pas capable. Mais la réalité, c'est que Dieu s'adresse directement à ces personnes-là à travers le texte d'Ésaïe 33. On est faible, on est incapable, puis on a besoin d'un sauveur. Une des réalités qui nous atteint tous à un moment donné dans notre vie, c'est l'échec. Non? Si on lève la main en ce moment en disant qui a déjà échoué à un moment donné dans sa vie? Si vous n'avez jamais échoué dans absolument rien, peut-être que vous n'avez pas vécu assez longtemps encore. Attendez, ça va venir. Puis je ne parle pas d'échouer à l'école nécessairement ou d'échouer dans ton travail, mais est-ce que ça t'arrive de te coucher le soir en te disant « je me sens un peu comme un échec en tant que père en ce moment. » J'essaie d'élever mes enfants, puis j'avais cette discussion-là cette semaine avec d'autres parents, puis je nommerai pas de nom, okay? Mais j'ai eu deux discussions avec deux parents, puis il y en a un des deux qui ne s'occupe pas vraiment de sa famille, qui est loin, puis qui a plusieurs enfants, qui ne les voit jamais. Puis quand je parlais avec cette personne-là, il me disait, « Moi, je considère vraiment que je suis un bon père, puis je suis un modèle, tu devrais faire comme moi. » Je parlais avec d'autres parents que je considère comme des parents exemplaires, puis qui me disaient, « J'ai tellement l'impression que j'en fais pas assez ou que je prends pas assez soin d'eux autres ou que je me sens pas à la hauteur. » Peut-être en tant qu'époux, en tant qu'épouse, en tant qu'enfant, en tant qu'ami. Mais il y a tous des sphères, à un moment donné dans notre vie, où est-ce qu'on va vivre des échecs, qu'on va se sentir comme un échec. Et le message de ce matin est pour ce monde-là. À mon avis, c'est pour tout le monde, mais comme quand Jésus est venu sur la terre et qu'il a dit « Je suis venu pour les malades et pas pour ceux qui se portent bien », c'est un peu le même principe, de dire « Soit que tu reconnais que tu es faible et qu'il y a des moments où est-ce que tu passes par des échecs, ou que tu te reconnais quelquefois même par un échec, parce que le texte d'aujourd'hui nous pointe vers, en fait, un peuple qui s'est eux-mêmes mis les pieds dans les plats. Et que c'est de leur faute s'ils sont en situation d'échec. Et ça aussi, c'est quelque chose qui nous rejoint tous à un moment donné. Donc, on va échouer souvent en raison de notre péché et en cause de toutes sortes de choses. Je sais que ça m'arrive, je sais que plusieurs d'entre vous peuvent dire que c'est la même chose pour vous. L'idée principale ce matin est vraiment simple et c'est ceci. Nous échouerons souvent. Nous échouerons souvent. Mais Dieu se servira de nos échecs pour notre bien et pour sa gloire si nous le cherchons au cœur de ceux-ci. Frère et sœur, il ne faut pas vivre dans les nuages et se voiler la face. On va échouer souvent. Mais Dieu va se glorifier. Et Dieu va faire tourner ces choses-là pour notre bien si on le cherche au milieu de l'échec. Donc, on va écouter la lecture de la parole de Dieu, puis ensuite, on va continuer à développer le message.
Le message de ce matin est dans Ésaïe 33, les versets 1 à 24, dans la nouvelle édition de Genève. Ésaïe 33, 1 à 24. Malheur à toi qui ravages et qui n'a pas été ravagé, qui pille et qu'on n'a pas encore pillé. Quand tu auras fini de ravager, tu seras ravagé. Quand on aura achevé de piller, on te pillera. Éternel, aie pitié de nous. Nous espérons en toi, sois notre aide chaque matin et notre délivrance au temps de la détresse. Quand ta voix retentit, les peuples fuient. Quand tu te lèves, les nations se dispersent. On moissonne votre butin comme moissonne la sauterelle. On se précipite dessus comme se précipitent les sauterelles. L'Éternel est élevé car il habite en haut. Il remplit Sion de droiture et de justice. Tes jours seront en sûreté. La sagesse et l'intelligence sont une source de salut. La crainte de l'Éternel, c'est là le trésor de Sion. Voici, les héros poussent des cris au dehors. Les messagers de paix pleurent amèrement, les routes sont désertes. On ne passe plus dans les chemins. Il a rompu l'alliance, il méprise les villes. Il n'a de respect pour personne. Le pays est dans le deuil, dans la tristesse. Le Liban est confus, languissant. Le Saron est comme un désert. Le basan et le carmel secouent leur feuillage. Maintenant, je me lèverai, dit l'Éternel, et maintenant, je serai exalté. Maintenant, je serai élevé. Vous avez conçu du foin, vous enfanterez de la paille. Votre souffle, c'est un feu qui vous consumera. Les peuples seront des fournaises de chaux, des épines coupées qui brûlent dans le feu. Vous qui êtes loin, écoutez ce que j'ai fait. Et vous qui êtes prêts, sachez quelle est ma puissance. Les pécheurs sont effrayés dans Sion. Un tremblement saisit les impies. Qui de nous pourra rester auprès d'un feu dévorant? Qui de nous pourra rester auprès des flammes éternelles? Celui qui marche dans la justice et qui parle selon la droiture, qui méprise un gain acquis par extorsion, qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent, qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires et qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal, celui-là habitera dans les lieux élevés. Des rochers fortifiés seront sa retraite. Du pain lui sera donné, de l'eau lui sera rassurée. Tes yeux verront le roi dans sa magnificence. Ils contempleront le pays dans toute son étendue. Ton cœur se souviendra de la terreur. Où est le secrétaire? Où est le trésorier? Où est celui qui inspectait les tours? Tu ne verras plus le peuple audacieux, le peuple au langage obscur qu'on n'entend pas, à la langue barbare qu'on ne comprend pas. Regarde Sion, la cité de nos fêtes. Tes yeux verront Jérusalem, ses jours tranquilles, tente qui ne sera plus transportée, dont les pieux ne seront jamais enlevés et dont les cordages ne seront point détachés. C'est là vraiment que l'Éternel est magnifique pour nous. Il nous tient lieu de fleuves, de vastes rivières, où ne pénètre point de navire à rames et que ne traverse aucun grand vaisseau. Car l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi, c'est lui qui nous sauve. Tes cordages sont relâchés, ils ne serrent plus le pied du mât et ne tendent plus les voiles. Alors on partage la dépouille d'un immense butin. Les boiteux même prennent part au pillage. Aucun habitant ne dit « Je suis malade ». Le peuple de Jérusalem reçoit le pardon de ses iniquités.
Amen. Si on a fait juste une chose ce matin en venant à l'Église, et que c'est de lire la parole, un chapitre complet des Écritures, déjà on a tout gagné, c'est une bonne chose. C'est un long texte. On arrive avec un texte comme celui-là, et on regarde à ce qui est dit, puis nos yeux peuvent commencer à s'écarquiller, puis on se dit, mais de quoi il parle ici? C'est compliqué parce que tu as des choses qui sont dites, adressées d'un côté au peuple d'Israël, d'un côté au peuple des Assyriens qui viennent attaquer Israël, de l'autre côté c'est Dieu qui parle, de l'autre côté c'est le prophète qui s'adresse au peuple, et ça devient un peu confondant, c'est un peu mélangeant quand tu lis un texte comme celui-là. Mais on va essayer de regarder clairement qu'est-ce que le texte dit ici, puis de le remettre dans son contexte, ça va faire bien du sens pour nous autres. Avant de commencer, laissez-moi juste dire un mot de prière. Père éternel, c'est avec humilité, avec simplicité qu'on se présente devant toi aujourd'hui en pensant pas qu'on est des grandes personnes et qu'on est des gens extraordinaires. Et on se présente pas ici dans ton église en te disant, Seigneur, que tu es chanceux que j'ai choisi de te servir. Que tu es chanceux, Seigneur, que je t'ai choisi pour vivre pour toi pour le reste de ma vie. On se présente ici avec des cœurs reconnaissants. Des cœurs qui reconnaissent notre faiblesse et à quel point on est perdu sans toi, mon Dieu. Des cœurs qui disent « Merci, Seigneur, de m'avoir attiré ici. Merci de m'avoir sauvé, de m'avoir changé, d'avoir fait de moi ton enfant. » Et je te prie pour le peuple qui est devant moi ce matin, mon Dieu, que ta parole pénètre les cœurs, que ta parole vienne amener une conviction profonde de ton amour, de ton support, même quand on se plante, même quand on est dans l'échec. Et même quand c'est de notre faute. Viens, Saint-Esprit, toi qui es appelé le consolateur, venez restaurer des cœurs. Et peut-être venez même nous préparer pour les choses auxquelles on va devoir faire face à un moment ou à un autre de notre vie. On t'aime, Éternel. Reçois ce message comme une offrande d'adoration pour ta gloire et pour le bien de ton peuple. Dans le nom de Jésus, on te demande ces choses. Amen. Ici, comme on l'a dit, on va échouer souvent, mais Dieu va se servir de nos échecs pour notre bien, pour sa gloire, si on le cherche au cœur de celle-ci. Le contexte d'Ésaïe 33, vous pouvez le trouver en reculant un petit peu dans votre Bible, puis en allant dans le deuxième livre des Rois, dans les chapitres 18 et 19. Ce qui se passe ici, c'est que les Assyriens sont en train de conquérir les nations. Ils font la guerre un petit peu à tout le monde, puis ils envahissent des peuples et ils les détruisent complètement. Il n'y a personne qui est capable de résister à leur force. Et là, ils arrivent devant Israël, et Israël, le roi Ézéchias, est terrorisé. Il voit le peuple des Assyriens qui vient pour les attaquer, puis il a peur. Puis au lieu de se confier en l'Éternel, puis au lieu de dire « Seigneur, viens et agis dans notre situation, fais quelque chose », ce qui se passe, c'est qu'Ézéchias commence à prendre ses propres moyens, puis commence à s'appuyer sur sa propre sagesse pour essayer d'acheter le roi d'Assyrie pour pas qu'il les attaque. Alors ce qu'il fait, c'est qu'il envoie des messagers au roi d'Assyrie, puis qu'il dit « Roi, dis-moi ton prix, puis on va payer. Dis-moi ton prix, puis on va te payer, puis viens pas nous attaquer, détruis-nous pas, on va te donner tout ce que tu demandes. » À partir de ce moment-là, il y a comme une entente qui se fait, il y a comme une alliance qui se crée en disant « Ok, je vais accepter ton argent, puis je ne vais pas venir t'attaquer. » Puis le roi Ézéchias, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il prend tout l'or qui se trouve à Jérusalem, puis il va jusqu'à prendre tout l'or et tous les objets d'or qui se trouvent dans le temple de l'Éternel. Il vide le temple de Dieu. Il déshonore l'Éternel en prenant tout ce qui est dans son temple et il l'envoie au roi d'Assyrie comme une offrande et il dit « Prends ça, puis attaque-nous pas. » Les messagers partent avec l'or, ils s'en vont en Assyrie, ils donnent ça au roi d'Assyrie avec les lettres d'entente et tout ça. Le roi d'Assyrie, il prend l'or, puis il dit « Merci, c'est gentil, mais je vais quand même vous attaquer finalement. » Le roi d'Assyrie, comme on dit en québécois, il est rat. Il dit « Ok, je prends toutes les richesses, mais je vais quand même vous tomber dessus puis prendre tout ce qui reste que vous ne m'avez pas donné. » Je veux la domination. Puis il part, puis il accuse le peuple d'Israël, puis il les traite d'une manière tellement déshonorante. Il vient même avec ses messagers s'adresser au peuple d'Israël en leur disant « Laissez-vous pas avoir, laissez-vous pas séduire par votre roi Ézéchias dans la situation que vous vous trouvez en ce moment. Laissez pas le roi Ézéchias vous séduire en vous disant « Confiez-vous en l'Éternel, parce que l'Éternel ne vous délivrera pas cette fois-ci. » Regardez au Dieu des autres nations, ils ne les ont pas protégés. Je m'en viens pour vous détruire, puis vous ne pouvez rien faire. » Le peuple est complètement dans la désolation, complètement découragé, dans la peur de la menace qui est devant eux, puis en quelque part, c'est de leur faute. Au lieu de s'appuyer sur l'Éternel, ils ont dépouillé son temple, puis ont essayé d'acheter le roi d'Assyrie. Ils ont agi par la peur. Et c'est ce qu'on voit dans les versets 1 à 6. Ici, le prophète est comme en train de se tenir entre le peuple des Assyriens puis entre le peuple d'Israël. D'un côté, il s'adresse aux Assyriens, de l'autre côté, il s'adresse à Israël avec des promesses. Puis là, ici, il y a comme quelque chose qui vient prendre place. Puis on n'a pas tous les détails ici. Puis l'ordre est un peu différent de comment ça se passe dans 2 rois 18 et 19. Sauf qu'ici, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il donne le message aux Assyriens. Il dit « Malheur à toi qui ravages et qui n'a pas été ravagé. » Les Assyriens dominent. Il n'y a personne qui leur a encore fait la guerre, qui les a encore battus. Il dit « Malheur à toi qui ravages et qui n'a pas été ravagé, qui pille et qu'on n'a pas encore pillé. Quand tu auras fini de ravager, tu vas être ravagé. Quand tu auras achevé de piller, on te payera. » Puis là, il y a un point de transition qui prend place. Éternel. Éternel, aie pitié de nous. Nous espérons en toi. Sois notre aide chaque matin et notre délivrance au temps de la détresse. Quand ta voix retentit, les peuples fuient. Quand tu te lèves, les nations se dispersent. On moissonne votre butin comme moissonne la sauterelle. Vous voyez, il passe de la prière puis il se retourne encore vers les Assyriens comme moissonne la sauterelle. On se précipite dessus comme se précipitent les sauterelles. L'Éternel est élevé. Car il habite en haut, il remplit Sion de sa droiture et de justice. Tes jours seront en sûreté. Voici la promesse de Dieu pour le peuple qui se tourne devant lui à ce moment-là. La sagesse et l'intelligence sont une source de salut. La crainte de l'Éternel, c'est le trésor de Sion. Donc, la première chose qu'on voit dans le texte ici, c'est que lorsque dans ton échec, même si c'est de leur faute et même si c'est eux qui ont causé le malheur qui leur tombe dessus, lorsque tu cherches Dieu dans l'échec, tu passes de la peur à la prière. Lorsque dans l'échec, tout à coup, tu commences à tourner vers Dieu, la peur se change en prière, puis en foi envers Dieu, en disant « Seigneur, viens à notre secours, fais quelque chose. » On a essayé d'acheter les Assyriens, on a essayé de se débrouiller par nous-mêmes, puis ça n'a pas marché. On a peur du peuple qui s'en vient devant nous, il se tourne vers la prière. Et le texte finit ici au verset 6 en disant que de l'Éternel vient la sagesse et l'intelligence. Une des choses qu'on réalise, puis même les commentateurs qui écrivent à propos de ce chapitre-là, ils se disent, mais la chose qu'on voit ici dans le chapitre 33, c'est un peuple qui se tourne enfin vers l'Éternel. Il aurait dû le faire depuis le début, puis ils font tellement tard dans le processus. Il aurait tellement dû se tourner vers Dieu avant. Mais au moment où ils le font, Dieu répond. Le texte de 2 rois nous dit que Ézéchias prend les lettres quand les messagers reviennent en disant « Le roi d'Assyrie va nous attaquer quand même, ils sont découragés. » Il prend les lettres, il s'en va dans le temple puis il commence à prier. Puis il s'adresse à l'Éternel. Puis Ésaïe nous raconte ça dans ses mots ici. Il commence à demander à l'Éternel d'agir et Dieu Dieu répond et Dieu agit et Dieu promet, tes jours vont être en sûreté. Lorsque tu t'approches de Dieu en prière, au lieu de rester là à regarder la menace avec la peur, tu reçois l'intelligence et la sagesse de Dieu pour savoir comment agir dans la situation. Et je dirais principalement, prier. La plus grande sagesse que tu peux recevoir dans les moments qui sont les plus difficiles de ta vie, c'est de te tourner vers Dieu en prière. Une des choses qui est triste, c'est que bien souvent, plusieurs d'entre nous autres, je vous ai dit tantôt, hein, j'ai gagné une médaille pour la persévérance. Des fois, je regarde ma vie et je me demande, suis-tu persévérant ou je suis juste têtu? Il y a des fois où certains d'entre nous autres, c'est dur d'arriver à notre limite. C'est dur d'arriver à notre limite où est-ce qu'on va enfin plier le genou et se tourner vers Dieu. Et ici, le peuple finit par se tourner vers Dieu puis recevoir la sagesse de Dieu pour savoir comment agir. Et c'est tellement important. C'est tellement la première étape pour voir la situation changer. Est-ce que tu vas te tourner vers Dieu ou est-ce que tu vas continuer en t'enfonçant, en t'appuyant sur ta propre sagesse? Le contraste est clair. Lorsque le peuple commence à prier, Dieu leur déverse sa sagesse au lieu de faire les choses qu'eux-mêmes faisaient. Tellement souvent, on continue à répéter les mêmes choses, puis à essayer les mêmes techniques, puis à s'appuyer sur nos propres forces, notre propre sagesse pour nous conduire finalement au même résultat. Au lieu de dire, tourne-toi vers Dieu, prie, adresse-toi à celui qui tient l'univers entre ses mains, adresse-toi à celui qui a créé absolument toute chose. Il nous dit, Isaïe, ici, que quand l'Éternel se lève, les peuples sont écrasés. Quand Dieu décide que c'est le temps d'agir, il peut détruire l'ennemi en un instant, en un clin d'œil. Donc, est-ce qu'on va enfin se tourner vers Dieu en prière ou est-ce qu'on va continuer tout le temps de s'appuyer sur nos propres forces? En fait, ça arrive tellement souvent que nos échecs sont causés par notre propre folie, par notre propre manque de sagesse. Puis le fait de, justement, pas s'appuyer sur Dieu, mais s'appuyer sur nous. Aller chercher la sagesse de Dieu en dernier recours. Je parlais avec une autre personne dans les dernières semaines aussi, vendredi, qui me racontait un peu des problèmes comme ça, puis qui me disait, mais j'ai tout essayé, puis là, je ne sais plus quoi faire, qu'est-ce que tu me suggères? J'ai été vers telle et telle personne, vers tel et tel spécialiste, et qu'est-ce que tu me conseilles? J'ai dit, mais as-tu essayé de t'approcher de Dieu? As-tu essayé de prier, de demander à Dieu d'agir? Je ne sais pas c'est quoi votre théologie à propos de la prière à chacun d'entre vous autres personnellement, mais quand on lit l'Écriture, on se rend compte que lorsqu'on s'approche de Dieu en priant, Dieu agit. Et ici, le texte nous dit encore la même chose. Il nous dit que lorsqu'on s'approche de Dieu, Dieu se lève et Dieu agit. Lorsque la voix de l'Éternel retentit, les peuples fuient. Quand tu te lèves, les nations se dispersent. Et pourtant, on est tellement lent des fois à se diriger vers Dieu pour recevoir son aide, sa sagesse, sa délivrance. Isaïe nous dit que la crainte de l'Éternel, c'est le trésor de Sion. Tout simplement parce que lorsqu'on craint Dieu, on ne craint plus rien d'autre. On a beau avoir la menace qui est là devant le peuple a beau avoir la menace du peuple assyrien qui est devant eux, mais lorsque tu te tournes vers Dieu et tu te rappelles la grandeur de ton Dieu, tu te rappelles de sa force, de sa puissance, de sa capacité, tout à coup, la menace semble vraiment petite. Et souvent, Dieu va permettre l'échec dans nos vies pour nous amener au bout de nous-mêmes. Dieu va permettre et va dire, OK, vas-y, continue. Je veux que tu tombes vers moi, mais tu ne le fais pas, continue. Puis Dieu va permettre l'échec des fois dans nos vies pour nous amener jusqu'au bout de nous-mêmes. Parce que tant qu'on n'est pas au bout de nous-mêmes, on ne va pas se tourner vers lui pour l'aide. Ou peut-être une manière de le dire un peu comme au début, tant qu'on ne réalise pas qu'en nous-mêmes, on n'a pas la puissance de continuer d'avancer ou de passer à travers la chose qu'on est en train de passer à travers, on ne va pas se tourner vers Dieu. On va continuer de s'appuyer sur nos propres forces. Puis certains d'entre nous avons un coup plus raide que les autres. Est-ce que c'est plus long avant qu'on arrive au bout de se dire, « OK, je ne suis vraiment pas capable. » Et c'est le deuxième point, la deuxième chose qu'on voit ici dans le texte. Lorsque tu cherches Dieu dans l'échec, tu passes de la désolation à la délivrance. Pour se jeter aux pieds de Dieu en prière, en fait, on doit premièrement reconnaître qu'on est dans un état de désolation. Le peuple ne s'est pas tourné vers Dieu tant qu'il n'a pas réalisé qu'il était cuit. Le peuple est là, on a tout fait. On n'a plus rien pour l'acheter, on lui a déjà tout donné. Puis il va quand même nous détruire, sa puissance est trop grande pour la nôtre. Mais ici, Dieu vient parler au peuple et Isaïe nous rappelle qu'est-ce qui s'est passé quand les messagers sont revenus au verset 7. Il dit, « Voici, les héros poussent des cris au dehors. Les messagers de paix pleurent amèrement. Ceux qui reviennent avec les lettres, qui étaient supposés d'avoir acheté la paix avec le roi d'Assyrie, reviennent. Ils sont tristes, ils sont dans la désolation parce que le roi va quand même les attaquer. » Il continue en disant, « Les routes sont désertes, on ne passe plus dans les chemins. » Il a rompu l'alliance. Ici, on ne parle pas de Dieu, bien sûr, mais on parle du roi d'Assyrie qui a brisé son alliance et qui vient quand même les attaquer. Il méprise les villes. Il n'a de respect pour personne. Le pays est dans le deuil, dans la tristesse. Le Liban est confus, languissant. Le Saron est comme un désert. Le Bassan et le Carmel secouent leur feuillage. Et là, l'Éternel dit, maintenant, Et on a trois maintenant ici. C'est comme si Dieu veut marquer un point au verset 10 en disant, « Maintenant, je me lèverai, dit l'Éternel. Maintenant, je serai exalté. Maintenant, je serai élevé. » Vous avez conçu du foin, encore les Assyriens, vous enfanterez de la paille. Il leur raconte encore leur destruction. Mais il finit en disant, « Vous qui êtes loin, écoutez ce que j'ai fait. Et vous qui êtes prêts, sachez quelle est ma puissance. » C'est comme si Dieu laisse son peuple aller jusqu'au bout de ses ressources, jusqu'au bout de ses forces, jusqu'au moment où ils vont enfin vraiment plier le genou et dire, « Seigneur, on n'a plus rien. » Ce qui est malheureux dans le texte, il y a quelque chose qui est vraiment malheureux puis quelque chose qui est vraiment extraordinaire. La chose qui est vraiment malheureuse, c'est que le peuple a pas, s'est pas tourné vers Dieu comme étant son premier recours, comme étant « voici notre première solution ». Dès qu'il y a quelque chose qui se passe dans notre vie, on se tourne vers Dieu pour faire appel à lui, pour venir à notre aide. Mais ça a été leur dernier recours lorsqu'il n'y avait plus aucune solution, lorsqu'ils étaient complètement abattus et qu'ils étaient sûrs qu'ils allaient perdre. À ce moment-là, ils disaient, il ne nous reste plus rien. Peut-être que toi, Seigneur, tu peux venir et faire quelque chose. On a une leçon à apprendre là-dedans. Tournez-vous rapidement vers Dieu dans le processus, que ce soit dans l'échec ou dans la difficulté, qu'on se tourne rapidement. Souvent, quand on est dans l'échec, c'est une des choses que, je ne sais pas si vous croyez au diable, vous devriez, parce qu'il existe, et la Bible en parle. Lisez Éphésiens 6, ça va peut-être vous rafraîchir la mémoire. On a un ennemi de notre âme. Et la Bible nous dit que l'ennemi de notre âme cherche notre destruction. Pierre va dire que le diable est qu'un lion, et comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Il y a réellement un ennemi de notre âme. Et ce qu'il fait, il fait deux choses. Okay? Il déteste la gloire de Dieu. Il ne veut absolument pas qu'on se tourne vers la gloire de Dieu. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tout faire pour détourner nos yeux de sur l'Éternel et pour nous tourner vers le péché, pour essayer de trouver notre satisfaction dans des choses qui ne vont pas nous satisfaire au bout du compte. Il essaie de nous diriger vers le péché. Il ne peut pas nous faire pécher, mais il nous tente vers le péché. Et souvent, ce qui va arriver, c'est que le moment où est-ce qu'on va mordre à l'hameçon et qu'on va tomber dans le péché, maintenant, il va passer à sa deuxième étape, de mettre son pied sur notre gorge puis d'essayer de nous écraser puis de dire, « Vois-tu comment t'es pas bon? Vois-tu comment t'es un loser? Vois-tu comment t'es un échec? Hein, tu viens de pécher contre l'Éternel. Vois-tu comment t'es? » Il vient accuser, on l'appelle l'accusateur des frères. Il vient pour nous écraser, pour mettre la culpabilité. Pourquoi? Parce qu'il veut surtout pas. Parce que c'est là que commence la restauration. Ici, dans le texte, le peuple ne va pas commencer à être restauré, ne va pas commencer à recevoir la délivrance, ne va pas commencer à recevoir l'aide de Dieu tant qu'ils ne sont pas arrivés au bout de leur force, tant qu'ils ne se tournent pas vers l'Éternel pour crier à l'aide. Et l'ennemi, quand on lit dans 2 Rois, et je vais vous lire le verset rapidement, quand on lit dans 2 Rois 18 au verset 29 et 30, le roi des Assyriens s'adresse au peuple. Il vient, il est tellement, tellement arrogant. Il vient s'adresser au peuple ennemi pour leur parler de leur roi. Il dit, « Ainsi parle le roi, qu'Ézéchias ne vous abuse pas, car il ne pourra pas vous délivrer de ma main. » Au verset 30, il dit, « Qu'Ézéchias ne vous amène pas à vous confier en l'Éternel, en disant, l'Éternel nous délivrera et cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. » Le diable fait ça à chaque fois. À chaque fois qu'on commet un... Il y en a plusieurs qui le savent ici. Chaque fois qu'on commet un péché, le diable vient. Il vient mettre son pied sur notre gorge et vient nous accuser. Il dit, « Tu ne vas pas te tourner vers Dieu après avoir commis tel péché. » Tu viens de regarder de la pornographie et tu veux prendre un temps de prière tout de suite après. Fais pas ça, t'es souillé, tu peux pas te présenter devant Dieu dans cet état-là. Tandis que c'est exactement la chose que tu devrais faire quand tu tombes. C'est exactement la chose que je devrais faire quand moi-même je perds patience avec mes enfants. Quand moi-même je perds patience avec ma femme. Au lieu de dire, ben, je vais juste m'éloigner puis rester loin, je me tourne vers Dieu puis dis, Seigneur, pardonne-moi, je me tourne vers ma femme puis je viens tout de suite régler la situation. Mais c'est tellement ça qui fait que les problèmes prennent de l'ampleur et grossissent. Vous savez, mon fils a joué au basketball dans la petite ligue junior. Puis une des choses que je trouvais vraiment drôle en regardant les enfants jouer au basketball, c'est que sur le terrain, les enfants se mettent à courir d'un côté puis de l'autre. Puis là, des fois, tu vois un des enfants qui part puis il est au panier puis il essaie de faire un panier. Puis là, il manque son panier. Le jeu continue. Mais la plupart du temps, l'enfant qui va lancer au panier et qui va le manquer, il va prendre un moment sur le terrain pour être triste qu'il ait manqué son panier. Fait que là, il va shooter, puis là, il manque son panier, puis il va être comme « Oh, oh, oh! » Pendant ce temps-là, l'équipe est rendue de l'autre côté, puis ils sont en train de marquer. Puis on trouve ça drôle, on regarde, puis on dit « Ah, laisse faire, tu pleureras après la game, va continuer à jouer. » Mais la réalité, c'est qu'on fait tout ça trop souvent dans nos vies. On se plante, on commet un péché, on est dans l'échec, puis c'est de notre faute. Puis au lieu de courir, puis de continuer, puis de dire, mais ce qu'il faut que je fasse, c'est que je continue, que je me tourne vers l'Éternel, puis que je dise, Seigneur, aide-moi à persévérer dans ma marche. Je te demande pardon. Oui, je me repens. Oui, je veux régler cette relation-là avec toi. J'ai besoin de ton aide pour le faire. Mais laisse pas l'ennemi mettre son pied sur ta gorge dans l'accusation, puis t'écraser. Ça veut pas dire que tu te sens pas mal à cause de ton péché. Non, ça fait mal. Lorsque tu aimes Dieu, tu veux pas pécher contre lui. Mais tourne-toi rapidement dans le processus pour passer de la désolation à la délivrance. Ésaïe nous dit que la crainte de l'Éternel est le trésor de Sion. On reçoit sa sagesse quand on se tombe devant lui. Mais ici, c'est tant qu'on n'arrive pas à la désolation, qu'on ne reçoit pas la délivrance. Puis il y a un passage ici dans les versets un petit peu plus loin, où est-ce qu'il va nous dire que, en réalité, même ceux qui font partie de Sion, même ceux qui font partie du peuple de Dieu, sont dans le trouble s'ils ne se repentent pas. Il va dire dans les versets 14 à 16, « Les pécheurs sont effrayés dans Sion. Un tremblement saisit les impies. Qui de nous pourra rester auprès d'un feu dévorant? » Ici, quand il parle d'un feu dévorant, il parle de Dieu. « Qui de nous pourra rester auprès de flammes éternelles? » Autrement dit, il est en train de dire le châtiment qui s'apprête à tomber sur le peuple d'Assyrie, ce n'est pas juste pour eux autres. Il y en a qui se réclament du nom de l'Éternel dans le peuple de Sion, qui pourtant ne sont pas de son peuple. Un peu comme dans l'Église, où il y a ce qu'on appelle les chrétiens nominaux qui se réclament du nom de l'Éternel, qui disent qu'ils sont des chrétiens, mais qu'ils ne le sont pas vraiment. Et Dieu vient donner une mise en garde à travers le prophète en disant « Attention, attention, parce que le châtiment qui va tomber sur l'Assyrien va être le même qui va tomber sur celui qui se réclame de mon nom et qui pourtant ne me suit pas, et qui pourtant n'est pas de mon peuple, mais qui l'est seulement de nom. » Ce qui est merveilleux, c'est qu'il dit, ici, il nous décrit la personne qui va être capable de s'approcher de Dieu. La personne, il dit, qui de nous pourra rester près d'un feu dévorant? Qui va être capable de demeurer dans la présence de l'Éternel? Puis lorsqu'il parle de Dieu comme étant un feu dévorant, un des plus beaux exemples que j'ai entendus, c'est un peu de le comparer au soleil. Peu importe ce que tu envoies vers le soleil, il y a un certain moment que cette chose-là va être détruite en approchant le soleil. Parce que le feu est trop fort. La chose va être consumée complètement, elle va être détruite. Puis l'exemple est le même avec Dieu. Dieu est un Dieu saint et le péché ne peut pas entrer dans la présence de Dieu. Le pécheur ne peut pas entrer dans la présence de Dieu. Et ici, Isaïe, qui peut? Il nous dit, qui peut? Qui peut entrer dans la présence de Dieu? Qui peut se présenter devant celui qui est un feu dévorant? Sa sainteté est tellement grande qu'il n'y a rien d'impur qui peut entrer dans sa présence. Puis la réponse est donnée tout de suite après. Il nous dit, celui qui marche dans la justice et qui parle selon la droiture, qui méprise un gain acquis par extorsion, qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent, qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires, qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal. Celui-là habitera dans les lieux élevés, des rochers fortifiés sont sa retraite, du pain lui sera donné, de l'eau lui sera assurée. Et là, on lit ça, puis on se dit, c'est moins ça. Non? Est-ce que vous lisez ça en vous disant, mais la personne qui ne pose jamais les yeux sur rien de mauvais, c'est moins ça. La personne qui ne parle jamais en mal et qui n'écoute pas, même les personnes qui disent des choses qui sont mal, c'est moi. Non, quand on fait le bilan et qu'on regarde à ce qu'il décrit ici, on peut dire, c'est pas moi, je suis incapable. C'est là qu'on réalise que nous qui ne pouvons pas approcher un feu dévorant, il a fallu que le feu dévorant descende et se revête d'humanité pour venir nous sauver. Et Jésus-Christ est descendu et c'est lui qu'on est en train de présenter ici. Jésus-Christ est celui qui est venu vivre cette vie parfaite de justice devant Dieu. Celui qui a marché sur la terre des vivants de manière à plaire au cœur de Dieu pendant chaque jour de sa vie, avec chacun de ses souffles. Et qui est venu mourir à notre place sur la croix pour nous permettre d'entrer dans sa présence. Oui, la Bible ici nous dit qu'il y a quelqu'un qui va venir. Qu'un jour, et c'est notre dernier point, on a besoin d'un sauveur et c'est clair qu'on regarde à ça, qu'on est incapable par nous-mêmes. Notre dernier point, c'est tout simplement que lorsque tu cherches Dieu dans l'échec, tu passes de l'angoisse à l'adoration. Lorsqu'on parle de Christ qui est descendu sur la terre, de Christ qui a pris notre place, de Christ qui s'est revêtu d'humanité pour venir nous sauver. Lorsqu'on parle de celui qui est venu comme ça, on nous dit que, et ici, il y a une prophétie qui est donnée des versets 17 à 24, lorsqu'il dit que tes yeux vont voir le roi dans sa magnificence. Et on parle de Christ, on parle du Messie qui va venir. Ésaïe parle souvent du Messie dans sa lettre. Il nous dit qu'un jour, et dans les versets 17 à 24, ce qu'on voit, c'est qu'il vient adresser la vue. Il vient dresser la vue. Il dit qu'on va voir deux choses, puis il y a une des choses qu'on ne verra plus. Il dit, tu vas voir le roi dans sa magnificence, tu ne verras plus l'ennemi, parce que Dieu va l'enlever, et tu vas voir la nouvelle Jérusalem. Il dit, tu verras le roi dans sa magnificence, ils contempleront le pays dans son étendue. Ton cœur se souviendra de la terreur. Oui, le secrétaire, le trésorier, tout ça, mais il continue en disant, tu ne verras plus le peuple audacieux, le peuple au langage obscur. Il continue en disant, regarde Sion, la cité de nos fêtes, tes yeux verront Jérusalem. Il y a une parole qui est en train d'être donnée ici. Oui, le roi va venir. Et le roi va payer à notre place. Et le roi va vivre cette vie-là que nous, on n'est pas capable de vivre. Il y a une délivrance qui est réelle pour eux à ce moment-là. Quand tu lis 2 rois 18 et 19, tu te rends compte que Dieu a envoyé un ange à l'Éternel puis a détruit les Assyriens comme ça. Ils ont été complètement détruits, même que le roi assyrien s'est fait tuer par ses propres fils. Dieu a accordé la délivrance d'une manière miraculeuse sans que le peuple ne fasse absolument rien. Et c'est ce qu'il est en train d'enseigner ici en même temps. Et c'est ce que nous, on doit recevoir quand on pense à ce que Christ a accompli pour nous. Christ est venu payer à notre place. Qu'est-ce que tu as fait pour être sauvé aujourd'hui? L'exemple que Isaïe va donner, il va dire que le peuple d'Israël est comme un navire. Au verset 23, il va dire que ses cordages sont relâchés, qu'il ne serre plus le pied du mât, et il ne tend plus les voiles. Et pourtant, il dit, alors on partage la dépouille d'un immense butin. Isaïe va dire, le peuple d'Israël est comme un navire qui est tout cassé complètement, qui est tout brisé. Il n'y a même plus de voile, il ne peut plus naviguer. Il est brisé. Il n'est plus capable d'avancer. Et pourtant, c'est lui qui est en train de ramasser un immense butin. Parce que c'est l'Éternel qui donne la victoire. Et Dieu parle à son peuple en disant, « Mais vous qui êtes un peuple qui est faible, qui est détruit, qui est incapable, et même vous êtes dans le trouble à cause de votre propre péché, pourtant l'Éternel va venir intervenir puis donner la délivrance et donner la victoire à ce peuple-là qui se tourne vers lui. » C'est le bout où Michel va dire « Amen » parce que ici, ce que le texte nous enseigne, c'est qu'on arrive toujours à la fin qui est l'adoration. Hein, Michel? La conclusion est toujours de dire, dans tout ce qui prend place, qu'on se tourne vers Dieu dans la prière, qu'on passe de la désolation à la délivrance, au bout du compte, le but ultime, c'est d'arriver à l'adoration. Puis quand il parle de la vue puis des yeux, c'est exactement ça qu'il dit. Pendant que les musiciens s'approchent, on finit avec ce texte-là, où est-ce qu'il est clair pour le peuple, malgré leur faiblesse, malgré leur échec, de se tourner rapidement vers Dieu en prière, de réaliser qu'on est incapable par nous-mêmes, de réaliser qu'à un moment donné, il faut qu'on plie le genou et qu'on se tourne devant Dieu. Dieu apporte la délivrance. Et de réaliser que le but de tout ça, c'est l'adoration. Et est-ce que ce n'est pas une des choses qui nous apporte le plus grand espoir de regarder au futur et à la ville céleste où est-ce qu'on va être avec Dieu pour la vie éternelle? Est-ce qu'on réalise qu'un jour, on va être dans sa présence et on va recevoir la grâce de Dieu? Là, la citation est sur l'écran, fait que vous regardez l'écran au lieu d'écouter, mais on va la lire ensemble, OK? Est-ce que ce n'est pas le but de notre vie? Même ici, on est à l'église de l'espoir. Est-ce que l'espoir n'est pas la chose qui nous fait passer à travers les pires difficultés dans notre vie, de savoir qu'un jour, on va se trouver dans la présence du roi, dans cette ville-là, où est-ce qu'il n'y aura plus d'échecs, où est-ce qu'il n'y aura plus de tristesse ou de difficultés? Et il termine le texte en disant « plus de maladies, plus de péché ». Autrement dit, plus de corruption dans notre corps qui a été corrompu par le péché et plus de corruption dans notre âme qui était condamnée à la mort éternelle. Mais on va vivre éternellement avec Dieu dans sa présence. Quelle joie! On va lire la citation maintenant ensemble de C.S. Lewis qui dit ceci en ce qui concerne les échecs puis qu'est-ce que ça devrait faire dans notre vie. Il dit, après chaque échec, demandez pardon, relevez-vous et réessayez. Très souvent, ce vers quoi Dieu nous aide d'abord, ce n'est pas la vertu elle-même, mais juste de pouvoir, ce pouvoir de toujours essayer à nouveau. Car aussi importante que soit la chasteté ou le courage ou la véracité ou toute autre vertu, ce processus nous entraîne à des habitudes de l'âme qui sont plus importantes encore. Il guérit nos illusions sur nous-mêmes et nous apprend d'une part que nous ne pouvons pas nous faire confiance même dans nos meilleurs moments et que d'autre part, on n'a pas besoin de désespérer même dans nos pires, car nos échecs sont pardonnés. Amen. En Christ, on peut avoir confiance que même dans nos pires échecs, et certainement, certains ont besoin d'entendre ça aujourd'hui. Parce que tu te sens comme un échec dans ta vie. Tu as besoin d'entendre que Dieu, même dans ce moment-là, c'est souvent un des moments où il va aimer se révéler à toi. Et venir te chercher, te relever, et se glorifier à travers de ça. Prions ensemble. Seigneur Dieu, je suis reconnaissant pour ta parole. Merci parce que, alors que j'étudiais ce texte-là, déjà tu faisais du bien à mon cœur. Seigneur, tu me relèves et tu m'encourages en me montrant que même dans mes pires moments, même dans les moments où je me plante par ma propre faute, où est-ce que je me plante, Seigneur, parce que moi-même j'ai fait ce qu'il ne fallait pas. Lorsque je suis désespéré, Seigneur, puis que j'ai plus de solution, lorsque j'arrive au bout de mes forces, puis que j'ai plus rien, Seigneur, que j'ai plus de ressources, je crois que tu te glorifies dans notre faiblesse. Seigneur, je crois que c'est notre gloire d'être dépendant de toi et que c'est ta gloire de nous soutenir. Et aujourd'hui, je te prie pour plusieurs de mes frères et sœurs qui sont ici, que tu puisses venir donner ce réconfort-là dans le cœur, de dire, oui, c'est vrai que tu as échoué, oui, c'est vrai que tu t'es planté, oui, c'est vrai que tu as eu de la misère, mais Dieu est encore là, il n'a pas baissé les bras et il va agir encore dans cette situation-là. Fais juste te tourner vers lui. Seigneur, encourage nos cœurs à te faire confiance dans ce sens-là. On te demande ces choses dans le nom de Jésus. Amen.